Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Oh my God. Radio X.
Et c'est parti, bonsoir, bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X, le mardi le 10 août, mais aussi, ben, c'est ma fête, hein, je veux pas me vanter, Christian, je veux pas pousser un bonne fête comme ça, mais ça va bien, bonsoir.
Oui, bonsoir, et j'allais justement te dire que je m'étais laissé dire que c'était ton anniversaire, en effet.
Ben oui, mais c'est super le beau cadeau que je me fais, en fait, d'être avec toi ce soir, et la thématique est tout aussi intéressante. Je regarde ma feuille, le plan de la soirée. Parler de conspiration, c'est une chose, mais découvrir des nouvelles histoires de complot aussi. L'étrange affaire du L8 sera le sujet de la soirée.
Oui, ça, c'est parce que les émissions du mercredi, elles seront thématisées en fonction des énigmes de l'histoire et des théories du complot. Et tu vas voir que l'histoire du L8, c'est un mystère historique. Et il y a des bonnes raisons de se gratter la tête avec cette histoire-là qui est très peu connue dans le milieu de l'insolite et du paranormal. Alors ce soir, je vais t'exposer cette curieuse histoire qui met en scène un dirigeable de la Deuxième Guerre mondiale.
OK! Et en première partie d'émission, comme vous êtes habitué de l'entendre depuis déjà deux jours, on passe en revue l'actualité, donc en première partie d'émission. Et j'ai envie qu'on plonge tout de suite, parce que on le sait, le temps nous est beaucoup compté, Christian.
Oui, on s'en rend compte à chaque soir. Écoute, j'ai toujours un agenda ou un line-up, comme on dit, excessivement chargé. Et depuis lundi, là, je me rends compte que je mets beaucoup trop de matériel. Il y a du matériel pour faire deux ou trois heures. Et finalement, le temps de lancer une ou deux nouvelles, on s'aperçoit qu'il y a déjà 45 minutes d'écoulées. Ça fait que, bon, effectivement. Mais on va s'ajuster. C'est-à-dire que c'est notre première semaine. C'est la première fois qu'ensemble, on fait des émissions d'une heure. C'est la première fois qu'on fait des émissions thématisées en suivant un canevas précis. Donc, on va s'ajuster, puis éventuellement, on va savoir exactement qu'est-ce qu'on peut entrer dans chacun de nos blocs sans avoir l'impression, pour nous et pour les auditeurs, qu'on est toujours en train de sprinter, parce que c'est un peu l'impression.
Ouais,
à partir du moment où tu me dis « OK, on est en onde », j'ai l'impression que là, me voici parti pour un sprint pendant une heure.
On se fait parachuter.
Ouais, effectivement. Puis là, on voit les minutes qui s'égrènent et on se dit « j'y arriverai pas, tu sais, je pourrai pas tout faire, tout parler, évoquer tout ce qui est sur la feuille du line-up et de l'agenda de la soirée ». Mais enfin, à la longue, après quelques semaines, j'imagine que tout ça va se placer.
Effectivement, et tant qu'à parler de théorie du complot, je défais ton ordre dans les nouvelles que tu voulais nous parler, parce qu'Alex Jones, c'est important, et ça vient tout juste de sortir, en fait, en fin de semaine. La semaine dernière, on parlait d'une possible condamnation. C'est officiel, il devra payer, et remettre aussi les auditeurs en contexte sur cette histoire-là de fausse fusillade qu'on avait criée sur les médias.
Et ça, tu vois, ça, c'est une nouvelle qui me fait plaisir, parce qu'à un moment donné, les théories du complot, c'est bien. Quand ultimement, il n'y a pas de victime, hein, c'est-à-dire si demain matin, tu rencontres quelqu'un qui dit « Moi, Camille, je suis convaincu que la Terre est plate. » Bon, tu peux toujours essayer de discuter avec lui, mais bon, si son point de vue est fait, la Terre est plate, parfait. Ça fait pas de mal à la personne. Quelqu'un te dit « Moi, je pense qu'on n'a jamais été sur la Lune. » Bah, libre à toi de pas y croire. Mais quand on tient des discours et Alex Jones pour placer un peu les auditeurs, c'est un espèce de preacher. Si vous avez l'image du preacher américain avec qui brandit sa Bible à chacun de ses sermons, puis qu'il postillonne de partout, ben c'est Alex Jones. Alex Jones, c'est le pasteur des théories du complot. Donc, depuis quelques années, il a une émission qui s'appelle InfoWar, qui est diffusée sur plusieurs plateformes, comme Spotify et d'autres plateformes de diffusion du genre. Quoique, ces dernières années, il s'est fait un peu bloquer, là. Donc, on a commencé à limiter la diffusion de ses messages. Et on le retrouve, donc, chaque semaine en train d'évoquer des théories du complot. Et ça semble, malheureusement, dans le sordide. Et, donc, rien. Évidemment, toutes les versions officielles sont fausses. Et ce qui est vrai, c'est évidemment le discours de Jones. Et l'une de ses cibles, c'est les fusillades qu'on doit déplorer régulièrement dans des écoles aux États-Unis. Et je te rappelle qu'il y avait eu en 2012 une tuerie du genre. C'était le 14 décembre 2012. C'est une fusillade qui avait eu lieu dans une école primaire qui est l'école Sandy Hook. Oui. Ça se trouve au Connecticut, à Newtown. Et donc, un type armé avait d'abord assassiné sa mère et ensuite, avec des armes d'assaut, il est entré dans l'école. Il a fait de très nombreuses victimes. En fait, il a fait 26 victimes, dont parmi les victimes, il y avait 20 enfants. C'est l'une des pires tueries aux États-Unis. Et là, Alex Jones est sauté. Bon, à l'époque, le président Obama avait dit, il faut faire quelque chose et on doit essayer de contrôler les armes à feu. Puis on veut pas retirer, hein, ça fait partie de la charte américaine d'avoir le droit de se défendre et de s'armer.
Oui.
Donc, c'est aux États-Unis, c'est inscrit dans la charte, qu'on soit d'accord ou non. C'est pas là le débat. La question, c'est est-ce qu'on peut mieux le contrôler? On a le droit d'avoir une voiture, mais est-ce qu'on est obligé de rouler à 250 sur l'autoroute et rouler dans n'importe quel sens? Non, je pense qu'on peut mettre des contrôles sans avoir à retirer les voitures. Et je pense que c'était un peu le discours de Barack Obama. Mais évidemment, pour les gens qui sont embrigadés dans le lobby des armes, dès qu'on évoque l'idée d'avoir un meilleur contrôle sur les armes à feu, et surtout aux États-Unis, c'est un sujet presque épidermique. Donc, Alex Jones avait sauté sur cette histoire de fusillade parce que le président Obama avait pris position et il avait évoqué la possibilité de mieux contrôler les armes. Et là, Jones était parti sur une espèce de délire en disant que la fusillade était une théorie du complot. C'était une mascarade organisée par les autorités. Il y avait eu aucune victime. Les gens qu'on voyait à la télé pleurer étaient des comédiens.
Et c'était des fausses funérailles, mais tu vois la place des parents.
Voilà, c'était des fausses funérailles. Tout ça, en fait, était tout organisé, c'était de la poudre aux yeux. Et Jones évoquait, bien sûr, l'idée que derrière cette mise en scène du gouvernement, parce que, bien sûr, c'est toujours le méchant gouvernement, c'était de dire le gouvernement veut mieux contrôler les armes à feu, etc. Il veut nous retirer notre droit de se défendre et d'être armé. Ça a jamais été la visée du président Obama. Donc, tout ça pour dire que dans les images qui ont circulé au lendemain de la fusillade de l'école Sandy Hook, Jones y avait été en disant bon, l'une des victimes, par exemple, il y avait un petit garçon qui s'appelait Jesse Lewis. Et là, Jones avait dit, on voyait les parents du jeune Jesse Lewis, qui est un petit garçon de 6 ans qui avait perdu la vue dans la fusillade. Et là, en voyant les parents du jeune Lewis à l'écran, donc c'est Neil Eslin et la mère Scarlett Lewis, on les voyait pleurer à chaudes larmes. Puis bon, bien sûr, toute la douleur d'avoir perdu un enfant dans la fusillade. Et là, Jones avait dit, ces gens-là, c'est des comédiens, on devrait leur donner un Oscar. C'est tout à fait sordide. Excuse-moi, là, mais j'essaie de me mettre dans la peau des parents puis d'entendre des trucs comme ça. Là, tu dois rager là, de voir des trucs comme ça. Et à un moment donné, c'est beau la liberté d'expression, mais où doit-elle s'arrêter?
Voilà.
Et là, dans le cas présent, puis tu vois, il faut quand même faire une nuance. On n'a pas voulu limiter le droit de pouvoir s'exprimer. Donc Alex Jones n'a pas été accusé d'avoir dit des choses de façon générale. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait de la diffamation. Donc il est accusé de diffamation et non pas d'avoir tenu des propos complotistes. Et donc ses propos en diffamation, c'est bien sûr d'avoir accusé ses parents-là. Donc Neil Eslin et Scarlett Lewis d'être des comédiens, que leur enfant n'avait jamais été tué dans la fusillade, et il a d'autres procès en cours. Donc, il y a d'autres parents qui ont décidé de poursuivre Alex Jones. Et là, pour la première fois, donc tout ça a tardé, mais finalement, ça s'est rendu à la Cour suprême de l'État du Texas. Et cette fois, il y a quelques jours, comme tu le dis, d'abord, Alex Jones a été condamné à payer 4,1 millions de dollars en dommages punitif au groupe. Donc, au couple en question.
Ben, c'est ça, justement, la nuance. Hein? Moi, je pensais que ça allait être pour toutes les victimes. Donc, lui, ça va coûter une beurrée.
On va voir à 4,1 millions pour les dommages punitifs. Et ensuite, il y a les dommages pour l'atteinte à la réputation et les douleurs, tu sais, occasionnées chez le couple. Et le juge a fait passer, écoute, la condamnation d'Alex Jones à 45 millions de dollars.
Ouf.
Écoute, c'est renversant, là. 45 millions de dollars. Inutile de te dire que avant même qu'il y ait, que le juge statue sur la somme à payer, donc à l'amende totale, le Free Speech System LLC, qui est la compagnie d'Alex Jones, s'est mis sous la loi de la faillite.
Ben oui.
Parce qu'elle était en partie poursuivie dans cette histoire-là. Et bien sûr, l'avocat d'Alex Jones a demandé, a décidé d'aller en appel. Écoute, là, on n'avait jamais vu ça, là, 45 millions de dollars. On a décidé d'aller en appel. Il est très probable, quand on regarde les lois dans l'État du Texas, il est très probable que ce montant-là sera diminué. Et les experts parlent que Jones, au total, pourrait s'en tirer avec une amende de 4 ou 5 millions de dollars. Mais quand même, le signal, hein, le message est lancé. On ne peut pas dire n'importe quoi. Encore une fois, on s'en est pas pris à Alex Jones en disant « Vous avez pas le droit de tenir des théories du complot. C'est libre à vous de le dire. Si vous croyez que le gouvernement veut contrôler les armes à feu, parfait, vous pouvez le dire. Mais vous ne pouvez pas le faire en utilisant des gens, en les calomniant devant vos auditeurs ou vos téléspectateurs. C'est quelque chose qui ne se fait pas. À un moment donné, le droit d'expression est une chose, mais le droit à l'intégrité des gens et des individus, c'est autre chose. Et là, Alex Jones a franchi ce fossé. Donc là, il devra payer, pour l'instant, selon la dernière condamnation, il devra payer 45 millions de dollars à Neil Eslin et Scarlett Lewis, dont le fils de 6 ans, je le rappelle, Jesse Lewis, est décédé lors de cette fusillade à l'école primaire Sandy Hook le 14 décembre 2012. Et il faut savoir qu'en septembre, Alex Jones devra répondre à des accusations similaires, cette fois provenant de 2 autres familles dans auxquelles, bien sûr, il a fait toutes sortes de commentaires et de propos là, disgracieux concernant la fusillade de Sandy Hook.
Je trouve aussi que c'est une bonne affaire. Là, quand les corps sont encore chauds là, puis qu'on commence à blablater, il y a un deuil à faire. Puis quand tu as un minimum d'empathie, tu fais pas ça. Là. N'allez pas là, c'est pas mal la morale de l'histoire. Là, peu importe
ouais,
que vous
ça.
Aimez
donc,
ou pas les gens. Là.
C'est ça, t'as le droit d'y croire à tes théories. Jones aurait pu dire, il aurait pu s'échapper à tout ça s'il avait simplement dit « Je pense que c'est une mise en scène, je pense que les gens qu'on voit à l'écran sont des comédiens sans cibler directement des individus en particulier. » Donc, à ce moment-là, c'est sa liberté d'expression et ça fait partie là aussi de la charte américaine. Donc, on ne veut pas brimer son droit de s'exprimer, le droit de le dire. Mais le fait qu'il ait utilisé, exploité des images très précises de parents endeuillés qu'on voit s'exprimer devant la caméra pour faire des commentaires aussi disgracieux et de laisser croire que ces gens-là étaient des comédiens, des acteurs et que leur douleur était feinte, là, à un moment donné, il y a des limites et ça devient presque sordide de voir un individu s'exprimer de cette manière-là.
Voilà.
Donc, je suis bien content que cette décision-là ait été posée et même si éventuellement un juge d'une autre instance de l'État du Texas ou même une instance fédérale américaine réduisait l'amende imposée à Alex Jones, au moins le message est passé. Il faut à un moment donné arrêter de dire n'importe quoi sur n'importe qui.
Voilà. Le prochain sujet, tu veux parler d'un trésor nazi.
Oui, tu sais ce qui ce qui différencie la réalité de la télévision, c'est que dans la réalité, il y a vraiment des archéologues et des chasseurs de trésors qui trouvent des trésors. Alors que les chasseurs de trésors à la télé, parce qu'il faut faire une émission puis il faut les tirer, on trouve jamais de trésors. Fait que c'est comme ça qu'on est rendu à 7 ou 8 saisons de La Malédiction d'Oak Island, où on voit des gars qui creusent, puis qui creusent, puis qui creusent. Puis à chaque fois, ils nous trouvent un petit bout de clou, un bout de planche, puis ils nous disent ça, c'est une découverte significative. Et on dirait qu'au fil du temps, on a oublié que ces gens-là étaient là pour trouver un trésor. Tu sais, tu comprends? On
ouais.
a noyé le poisson. On dit, écoute, au bout de 8 saisons, là, qu'est-ce qu'ils font dans ce style-là? Ils cherchent-tu des clous? Ils cherchent-tu des planches? Tu sais? Puis à toute fois qu'ils trouvent quelque chose, c'est tout le temps une découverte significative. Alors que dans la réalité, ben, il y a effectivement des archéologues, des historiens, des chasseurs de trésors qui ont réussi à trouver des choses qui sont tout à fait extraordinaires. Et on en a encore un autre exemple. Il y a quelques jours, un groupe, le Citizen Breed Reeves Foundation, qui est un groupe d'archéologues que la presse qualifie souvent de chasseurs de trésors, mais disons qu'ils ont une discipline historique et archéologique dans leurs recherches. Et ces gens-là ont annoncé, il y a à peu près un mois et demi, qu'ils avaient fait une découverte importante. Donc, je te replace un peu dans le contexte. Dans un premier temps, ce groupe d'individus ont mis la main sur un journal d'un ancien officier SS, un ancien officier nazi, et cet officier-là parlait d'une résidence. En fait, c'est un ancien palais qui se trouve en Pologne, qui aujourd'hui est abandonné. Mais durant la Deuxième Guerre mondiale, ce palais avait été converti en maison close pour offrir des services aux SS qui étaient loin de chez eux. Il y avait quand même besoin de réconfort, ces petits SS-là.
Ben oui! Hein?
Même si, sans faire un mauvais jeu de mots, c'était des bons Ariens.
Oh my God!
C'est des bons Ariens. Il y avait quand même besoin un peu de réconfort. Donc, c'était une maison close. Et donc, les archéologues en question, en fouillant dans des archives, ont mis la main sur un journal d'un ancien officier SS qui écrivait, en fait, il a fait une série de commentaires à propos de lettres qu'il a envoyées à la maîtresse de la maison, si je puis dire, hein, l'entreteneuse de cette maison close. Et il disait là-dedans, dans ses commentaires, qu'il la remerciait de l'avoir aidé à compléter sa mission. Et il élabore assez longuement sur sa mission, qui était de dissimuler des objets, des trésors, entre guillemets, qui étaient passés entre les mains des officiers SS du Reich. Et il avait demandé la collaboration de cette dame-là. Tu comprends que si tu demandes la collaboration de l'entreteneuse d'une maison close, c'est pas parce que t'es allé enterrer ton trésor quelque part ailleurs. Tu comprends? Pourquoi directement parler de cette femme-là? Donc, les historiens, archéologues, sont partis du principe que s'ils s'étaient adressés à cette dame-là, c'est que probablement cette maison close, cet ancien palais polonais, et là, on se trouve dans la ville de Minkowski, on est dans le sud-ouest de la Pologne, ben c'est probablement parce qu'elle a été impliquée avec lui dans la dissimulation de trésors quelque part dans une cache secrète près ou sur les terres du palais en question. Okay. Donc, à partir de là, les archéologues ont commencé à faire des recherches. Donc, les recherches ont débuté. Donc, à partir du moment où ils mettent la main sur le journal, on est en mai 2021. 2022, un an plus tard, presque jour pour jour, les archéologues annoncent qu'ils ont découvert un trésor. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est que en utilisant un géoradar, encore une fois, je te rappelle que ce palais est abandonné aujourd'hui, donc on a dû défricher une partie là, des herbages et tout ça, la terre qui s'était accumulée, et là, on a pu passer ce géoradar, et ils ont localisé une première cache, et dans cette cache, elle contient un baril qui fait à peu près 1,50 m de profondeur pour 1 m de diamètre. Avec le géoradar et d'autres appareils, dont notamment des systèmes qui rappellent un peu les rayons X, ils ont pu déterminer le contenu du dit baril et ça contient de très nombreux lingots d'or. On parle de plusieurs tonnes, peut-être 2 tonnes de lingots d'or qui sont accumulés dans le fond du baril.
Oh boy.
Et sur le dessus, on voit distinctement des boîtes qui contiennent des bijoux qui appartenaient probablement à des familles de la haute, de la bourgeoisie allemande, parce qu'il faut savoir, lorsqu'il y a eu la débandade du Reich en 1945, le début 45, quand les Allemands ont commencé à comprendre qu'ils allaient perdre la guerre, des familles proches d'officiers SS ont pris leurs bijoux, les ont mis dans des boîtes, ont confié ça à DSS dans l'espoir qu'après la guerre, ils pourraient récupérer leurs biens. Donc, dans le fameux baril en question, là, il n'y a aucun doute, hein, les photos, les scans, les rayons X du baril montrent clairement ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a ces lingots et il y a ces boîtes qui contiennent des bijoux. On peut voir sur les photos, on voit même des colliers de perles, on voit des bagues avec des diamants. Donc, on voit ces boîtes qui contiennent les bijoux et les lingots qui ont été accumulés dans le fond du baril.
Qui espérait pouvoir redevenir riche après toute la crise, la guerre.
C'est ça, après la guerre et après que les pays d'Europe se seraient divisés ou auraient organisé le sort de l'Allemagne, qu'on ne savait pas à ce moment-là. Hein?
Ouais.
Les Allemands comprenaient que la guerre était perdue, mais qu'arriverait-il de l'Allemagne? D'autant plus qu'il faut savoir, puis là, je ne veux pas rentrer dans l'histoire parce que c'est assez complexe, mais la guerre avait été déclenchée. Une des raisons pour lesquelles on avait déclenché la Deuxième Guerre mondiale, en fait, que Hitler avait déclenché la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'il y avait le traité de Versailles. Après la Première Guerre mondiale, guerre qui avait été menée par l'Allemagne et qui a été perdue par l'Allemagne, l'Europe ont décidé de donner une leçon à l'Allemagne en disant « Parfait, vous avez perdu la guerre. » Et dans le traité de Versailles, on exigeait de l'Allemagne qu'il rembourse tous les dommages causés à l'Europe durant la Première Guerre mondiale. L'effet de ça a été instantané, ça a plongé l'Allemagne dans une crise économique tout à fait épouvantable. Les Allemands devaient aller au marché, payer leurs denrées, faire vivre leur famille et verser de l'argent au gouvernement, mais des taxes tellement élevées parce que l'Allemagne, outre de mener, de contrôler le pays, d'entretenir les besoins du pays, devait débourser des sommes colossales à l'Europe pour rembourser les dommages causés par la Première Guerre mondiale. C'était ça, le traité de Versailles.
Okay.
Et à un moment donné, Hitler a dit « On peut pas continuer à faire ça. On va rester dans une espèce... L'Allemagne va demeurer dans le ghetto de l'Europe si on continue de payer ou de d'honorer le traité de Versailles. » Donc, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons qui a amené Hitler à déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tu comprends, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, là, les familles allemandes bourgeoises qui étaient relativement riches, elles disaient « Ouais, mais là, on a refusé de payer, on a déjà perdu la Première Guerre mondiale, on a dit à l'Europe qu'ils pouvaient se mettre le traité de Versailles où on pense, qu'est-ce qui va arriver de l'Allemagne après la débandade? » Donc, c'est la raison pour laquelle certaines familles bourgeoises ont confié leurs bijoux. Tout ça nous ramène à notre fameux baril découvert en mai dernier. On n'a pas immédiatement remonté le baril parce que dans bien des cas, ce genre de cachettes, parce qu'on en a trouvé quand même plusieurs caches allemandes. Souvent, ces cachettes étaient piégées avec de la dynamite, des explosifs ou des trucs comme ça. Donc, à partir du moment où nos historiens, archéologues, chasseurs de trésors ont annoncé aux autorités du pays qu'ils avaient bel et bien trouvé une cache contenant un trésor allemand, les autorités ont dit « Assurez-vous qu'il n'y a pas de piège, qu'il n'y a pas d'explosifs, qu'il n'y a pas, bon, il n'y aura pas de dommages. » Et ensuite, à partir de là, en fonction du rapport que vous nous soumettrez, on va autoriser ou non les fouilles nécessaires.
Et je là, voilà. De créativité, Christian, parce que je me disais, mon Dieu, je peux pas croire que la descendance de ces gens-là pendant la guerre n'ont pas eu de lettres avec les coordonnées. Mais même dans les films d'action, ils nous le montrent que quand il y a un trésor ou qu'on prend le crâne de cristal, par exemple, il y a tout le temps il y a une grotte qui s'effondre ou il y a des pièges partout. Là. C'est pas
bien
aussi
sûr,
facile.
Bien sûr. Il faut qu'il y ait un piège.
C'est ça.
Sinon, on perd le suspense. mais dans le cas présent, à ton grand étonnement, il n'y avait pas de piège.
Okay.
Donc, les chercheurs ont bien inspecté l'endroit. Il n'y a aucun piège, aucun système d'explosif ou quoi que ce soit. Donc, ils ont remis un rapport aux autorités polonaises. Et finalement, les autorités ont donné, il y a quelques jours, l'autorisation d'extraire le fameux baril. Donc, au moment où on se parle, les archéologues ont fait savoir, il y a quelques jours, qu'ils commençaient à entreprendre des travaux pour l'extraction du fameux baril qui contient les lingots et les bijoux en question, mais en même temps, les historiens ont fait savoir qu'ils étaient persuadés qu'il y avait à travers dans toute cette région de la Pologne, ils étaient persuadés en fonction des documents qu'ils avaient sous la main qu'il devait y avoir au moins 11 autres sites d'enfouissement et il devait en avoir au moins 3 autres sous le fameux palais en question. Et dans l'une de ces caches sous le palais, des documents leur permettent de croire qu'il y aurait notamment 47 œuvres d'art qui auraient été dissimulées, des œuvres d'art volées par les Allemands à l'Europe, parce qu'on sait, ils ont littéralement écumé tous les pays d'Europe en s'emparant des biens, non seulement les biens sonnants, l'or, l'argent qui était dans les coffres des banques nationales, mais également les œuvres d'art qui étaient dans les musées. Et dans la liste qu'il mentionne à propos de ces œuvres d'art qui seraient dissimulées sous le palais, on parle de 47 œuvres d'art, dont des tableaux de Botticelli, Rubens, Cézanne, Monet et Rembrandt. J'en prendrai un.
Ben oui, hein?
J'en prendrais rien qu'un.
La question que tout le monde se pose maintenant, c'est une fois qu'on a retrouvé et qu'on est lancé dans cette chasse au trésor-là, à qui appartient le patrimoine? La Pologne ou l'URSS?
Bonne question. En fait, les trésors, le but des archéologues, je ne sais pas au niveau du droit international, quels sont les droits en Pologne. Bon, c'est sûr que le premier pays visé, c'est la Pologne, puisque ça se trouve chez lui. Mais l'objectif des archéologues et historiens, ils l'ont clairement fait savoir, ils n'ont absolument pas l'intention de se mettre des sous dans les poches. Leur objectif, c'est de retourner à ces pays où les œuvres d'art ont été volées, de retourner à ces pays les œuvres d'art pour qu'ils puissent à nouveau les exploiter, les présenter dans leur musée. Et s'il y a des biens qui sont des biens personnels, ils vont entreprendre des démarches, des recherches pour retrouver les descendants des propriétaires pour pouvoir leur remettre les trésors en question.
C'est très diplomate quand tu ne connais pas la valeur des choses. Hein?
Voilà qui nous change de nos gars qui creusent à Oak Island depuis 7 ans, qui ont à part trouvé des clous puis des bouts de bois. Là, enfin, c'est un peu amusant. C'est rafraîchissant de voir des chasseurs de trésors qui trouvent un trésor, tu sais.
C'est un petit fantasme de jeunesse hein, de trouver un trésor, soit dans la maison ou sous la terre. Merci, Christian. Ça fait le tour des actualités pour ce soir.
OK. Encore une fois, on voit qu'on n'a pas eu le temps de tout passer en revue, mais...
Ben non.
On va s'ajuster. Je sais que les auditeurs ne le savent pas, mais on avait plein d'autres choses à parler. Mais bon, c'est pas grave. On va remettre ça à la semaine prochaine.
Oui, on va faire une courte pause et au retour, ça va être le sujet de la soirée dans Radio X-Files.
OK, parfait.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
On est de retour avec des histoires ce soir d'énigmes et de théories du complot et on se concentre plus particulièrement en deuxième partie sur l'étrange affaire du L8, Monsieur Page.
Oui, c'est une histoire de disparition mystérieuse, une énigme historique qui nous renvoie durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on fait suite un peu à notre histoire de trésor. Donc, on se cale un peu dans notre fauteuil. Je te raconte cette histoire-là et je te le dis tout de suite, je n'ai pas la solution. Donc, voici comment ça se passe. Ça nous renvoie, en fait, on est au tout début de 1942. Et en décembre 1941, il y a eu les attaques sournoises du Japon sur Pearl Harbor, sur l'île de Hawaï. Et donc là, bien sûr, les Américains craignent de plus en plus, éventuellement, qu'il y ait des attaques japonaises sur la côte ouest américaine. Et pour répondre à cette crainte que les Américains ont de voir une invasion ou une attaque japonaise sur les côtes ouest, l'armée américaine, la US Navy, va s'équiper d'un escadron de 12 dirigeables. Bon, ce sont, pour te donner une idée, ce sont des dirigeables. Ils font 46 mètres de long par 14 mètres de diamètre. Je sais que ça peut paraître abstrait, mais dis-toi que certains de ces ballons ont été récupérés et sont devenus les fameux ballons Goodyear qu'on peut voir, dont certains sont encore en service et qu'on peut observer au-dessus des grandes activités sportives, par exemple. Okay. Une course d'automobile, tout ça, les gens disent « Ah oui, il y a un ballon Goodyear qui est là, qui a filmé l'incident, qui a filmé la course, par exemple. » Ben, certains de ces ballons sont des anciens ballons dirigeables qui étaient dans cette fameuse escadrille de la US Navy. D'ailleurs, le L8, notre ballon en question, va, après quelque part, là, à la fin des années 50, sera bien sûr récupéré et sera utilisé dans l'écurie Goodyear comme un ballon dirigeable qui va servir un peu à surveiller du ciel des grands événements sportifs. Donc, on est en 1942, il y a cette fameuse crainte après les attaques sur Pearl Harbor que les Japonais attaquent la côte ouest américaine. Il y a eu quand même quelques petits escarmouches. Hein. Des sous-marins japonais, par exemple, ont émergé et ils ont canardé, ils ont envoyé des obus sur la côte de Californie. Donc, il y a eu quelques petits incidents semblables et pour répondre à ça, la US Navy va s'équiper de cette flotte de 12 dirigeables qui, chaque matin, décollent depuis la base de Moffett Field qui se trouve sur l'île de Treasure Island. Pour situer les gens, Treasure Island est une petite île qui se trouve littéralement au pied du Golden Gate Bridge dans la baie de San Francisco.
Okay.
Donc, elle est située entre Auckland et San Francisco, pratiquement en dessous du Golden Gate Bridge. Et aujourd'hui, la base de Moffett Fred Field n'existe plus, mais on peut se l'imaginer hein, à cette époque, au début de 1942, une base militaire avec tous ces grands, ces hangars géants qui servaient à garder à l'intérieur la flotte de dirigeables qui, chaque matin, aux aurores, étaient amenés sur les pistes et chaque les ballons décollaient les uns après les autres. Et un peu comme le croissant, un croissant de lune se déployait le long de la côte de Californie et surveillait la possibilité qu'un sous-marin japonais ou quoi que ce soit puisse se produire, être en fait des yeux dans le ciel pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'incident. Et les pilotes de ces dirigeables avaient pour mission que dès qu'ils localisaient quelque chose de suspect, une ombre mystérieuse sous l'eau, un écho mystérieux, une tache d'huile ou quoi que ce soit, les ballons devaient se diriger vers cet objet-là. Et là, rapidement, on envoyait des messages à la garde-côte ou à l'armée. La US Navy avait également des bateaux qui mouillaient le long de la côte de la Californie. On lançait des bombes fumigènes pour indiquer la cible en question et les bateaux sur la mer allaient inspecter de manière plus soutenue les indications que du ciel, des pilotes auraient pu observer et interpréter comme étant une présence japonaise. Donc, tout ça nous amène au matin du 16 août 1942. Ce matin-là, à partir de 5h30, 6h, on sort nos fameux dirigeables et les ballons s'envolent les uns après les autres. Et le huitième du groupe s'appelle le L8, qui ce matin-là a pour nom de code le vol 101. Donc, le ballon se décolle. En fait, à son bord, au moment du décollage, le ballon est amené sur la piste. Il y a trois personnes à bord. Il y a le lieutenant Ernest DeWitt Cody, qui a 27 ans. Il y a aussi l'enseigne Ellis Adams, qui lui a 37 ans. Et il y a un mécanicien qui s'appelle James Riley Hill. Donc, trois personnes, hein, un équipage de trois personnes. Mais ce matin-là, la pression atmosphérique étant très élevée, le ballon a de la difficulté à décoller.
Okay.
Il faut pas grand-chose pour l'empêcher de décoller. Et finalement, le mécanicien de bord, c'est une décision qui va probablement se féliciter le restant de ses jours, décide de débarquer. Donc, il ouvre la porte, saute sur la piste. Il est pas essentiel à l'équipage. Donc, il débarque, allège le ballon de son propre poids et là, éventuellement, le L8 prend son envol. Comme je l'ai mentionné, la mission du L8 ce jour-là est de suivre une trajectoire très précise en suivant hein, les ballons se déploient le long de la côte de la Californie. Dans le cas du L8, le vol 101, sa mission est de partir de Treasure Island, traverser la baie de San Francisco. Tu peux t'imaginer la vue que ces gens-là devaient avoir au-dessus du Golden Gate Bridge et de voir à leur droite la prison d'Alcatraz. Ça devait être quelque chose de tout à fait fantastique. Donc, ils décollent, ils doivent partir de Treasure Island, survoler San Francisco, aller vers la mer, un endroit qui n'est pas habité, des îles qui ne sont pas habitées, qui s'appellent les îles Farallon. D'ailleurs, les îles Farallon, simplement un petit aparté, c'est véritablement le paradis des chasseurs de requins.
Hein, okay.
Il y a là à peu près toutes les espèces de requins, principalement des grands requins blancs. Donc, les gens qui s'intéressent à l'océanographie, la zoologie marine, qui s'intéressent particulièrement aux requins, c'est vraiment un habitat qui favorise la présence des requins. Donc, chaque jour, il y a des bateaux qui amènent des gens là-bas, des océanographes, des biologistes marins. C'est vraiment un endroit qui est connu dans le monde pour la présence de ces requins. Donc, Treasure Island, San Francisco, les îles Farallon, le L8 doit redescendre un peu vers le sud pour passer vers Point Reyes avant de revenir à Treasure Island. C'est sa mission. Cette journée-là, il fait un temps remarquable, même si au matin, on avait un peu de la pression atmosphérique qui était élevée, un peu de rosée au sol. Mais à partir, au moment où le soleil se lève, tout ça s'éclaircit. C'est une belle journée d'été. Hein. Comme je l'ai mentionné, on est le 16 août 1942. Et voilà qu'à 7h38, un petit mot sur l'équipage, hein. Ernest Cody, qui a 27 ans, est un individu, c'est un spécialiste des vols en ballon, hein. C'est même, malgré son jeune âge, 27 ans, depuis quelques années, il vole sur des ballons, il a volé à peu près sur tous les types de ballons rigides, et c'est un expert de la situation. Avec lui, celui qui l'accompagne, hein, l'enseigne Ellis Adam, lui a 37 ans, c'est quand même un nouveau venu. Il a jamais volé sur des ballons dirigeables, mais c'est quand même un pilote aguerri. Donc, voilà pour l'équipage.
Okay.
Donc, à 7h38, DeWitt Cody appelle la base de Moffett Field. Il dit, voilà, on se trouve à 4000 des îles Farallon, nos fameuses îles aux requins. Et là, il dit, restez à l'écoute. Et quelques minutes après, en 7h42, parce que j'ai tout le j'ai tout le time frame devant moi, ce qui s'est passé cette journée-là, à 7h42, il rappelle la base de Moffett Field en disant, nous allons examiner une tache d'huile. Donc, il pourrait s'agir d'un largage par un sous-marin japonais ou quoi que ce soit, il pourrait aussi s'agir simplement d'un largage qui proviendrait, par exemple, d'un chalutier ou d'un bateau, mais peu importe. Donc, on a une tache d'huile, et là, voilà, DeWitt Cody dit, on va aller examiner cette tache d'huile. À 8h, pas de nouvelles.
Oups.
Donc, on se dit, ça fait quand même...
20 minutes, là.
Ça fait quand même pratiquement 20 minutes. Il nous a pas toujours donné de nouvelles. Et chaque vol doit donner, tu comprends, par exemple, tous les 15 minutes, ils doivent donner un signal. Donc, si, par exemple, toi, ton horaire, c'est d'envoyer un message, par exemple, à E5, faut que tu en envoies un autre à E25, un autre à E45, tu comprends? Donc, tu dois suivre une période de 15 minutes.
Comment ils envoyaient ça, hein?
Ben, il y avait des radios okay. En haute cour. Bon. Et donc, à 8 heures, hein, pas de nouvelles. Les pilotes ne mentionnent absolument rien à propos de cette fameuse tache d'huile. Le temps s'écoule. 9h30, on n'a toujours rien. On est donc sans nouvelles depuis à peu près 1h15 de l'équipage du L8. À 8h30, des responsables, pas à 8h30, à 9h30, donc, on commence à s'inquiéter sur ce qui a pu arriver au L8. Les responsables de la base de Moffett Field envoient un signal sur les ondes en disant, si quiconque voit le L8, que ce soit des bateaux, que ce soit d'autres avions, si quelqu'un voit le L8, nous prévenir. Parce que, bien sûr, on craint une attaque japonaise. Est-ce que le L8 s'est approché de la tache d'huile?
Est-ce qu'au moment où
il a été descendu par un sous-marin japonais, tu comprends? Il faut avoir dans notre esprit cette mentalité de la Deuxième Guerre mondiale et la menace toujours possible. Donc, à 9h30, la base de Moffett Field envoie un signal disant, bon, on n'a plus de contact avec le L8, que s'est-il passé? À 11h, un vol de la Paname, donc un vol commercial, un gros porteur, envoie un signal à la base de Moffett Field en disant qu'il vient de croiser le L8 tout près du Golden Gate Bridge, et que tout semble en ordre, le ballon semble sous contrôle, il n'y a pas de problème. La base de Moffett Field tente à nouveau de recontacter le L8, toujours sans nouvelles. Alors là, on commence à se dire que c'est peut-être le système radio qui est en panne. À peu près au même moment, un pilote de l'armée de l'air américaine qui vole sur un appareil, un P-38, rapporte lui aussi avoir croisé le L8 dans le même secteur, à peu près du Golden Gate Bridge. Mais, encore une fois, la radio reste muette. 11h15, un avion de la marine américaine passe à côté du L8. Il ne va pas assez près pour voir ce qui peut se passer dans la gondole, hein, qui est la partie en dessous où se trouvent les pilotes, mais le ballon semble aller correctement, les moteurs sont en fonction, tout semble être OK.
Mais y a-t-il encore du monde en vie dessus? C'est ça l'affaire.
Et à 11h30, là va arriver un incident très particulier. Il y a un jeune homme qui s'appelle Ricardo Copavilla qui se trouve sur la plage tout près de San Francisco, sur le bord de la mer. Et là, il voit sortir du ciel, il aperçoit dans le ciel le L8. Il est tout près, hein? Il est à quelques dizaines de mètres de la plage et il se dirige vers lui. Donc Copavilla l'observe et là, le ballon va frapper le sol. Il y a une roue en dessous de la gondole. Cette roue-là va frapper le sol. Et de chaque côté de la gondole, il y a des bombes, parce que bien sûr, les ballons sont équipés de bombes au cas où ils voyaient, si on avait repéré un sous-marin, on aurait pu non seulement lancer une bombe fumigène, mais également des explosifs pour le forcer à émerger. Donc, la roue de la gondole frappe le sol, une bombe se détache, tombe sur le sable, le ballon, délesté du poids de la bombe, reprend de l'altitude et s'éloigne. À ce moment-là, Copavilla voit, quand le ballon se tourne un peu, il voit sur l'enveloppe écrit L8, et il voit que l'enveloppe commence à se déformer. Visiblement, le ballon perd de l'air. Et le fait qu'il ait délesté du bois de la bombe, il reprend de l'altitude et disparaît à l'horizon. Et puis, une quinzaine de minutes plus tard, le ballon réapparaît au-dessus de Daly City, qui est une banlieue de San Francisco. Cette fois, le ballon est très déformé. Il siffle comme un ballon qui se dégonfle. Il accroche le bord des toits, des fils électriques et tombe dans la rue. Donc, évidemment, on appelle l'armée, la police intervient. L'enveloppe a recouvert la gondole. Lorsque les policiers arrivent, on perce la gondole, on perce l'enveloppe et finalement, on se ferait un chemin jusqu'à la gondole. On ouvre la porte. Il n'y a personne à bord. Il y a encore les vestes de sauvetage sont là. Il y a encore un canot de sauvetage qui est à bord de la gondole. Les moteurs sont en position d'arrêt. La radio est en position allumée et elle fonctionne très, très bien. Mais il n'y a absolument aucun passager à bord. Le ballon, le L8, est ramené à la base de Moffett Field. Et là, bien sûr, on se creuse la tête. Que s'est-il passé? Le fait qu'il n'y ait pas d'eau dans la gondole indique que le ballon, parce qu'on s'est dit peut-être qu'ils ont été capturés par des Japonais, mais le fait qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur de la gondole montre que le ballon n'a jamais été en contact avec l'eau. Alors, où est passé l'équipage? Là, il y a une enquête qui est déclenchée par le département de la Défense, la US Navy enquête, qui est-il arrivé à l'équipage du L-8. Et on va apprendre dans les jours qui suivent, donc durant l'enquête, qu'à quelques reprises, le ballon a été proche de l'eau, mais n'a jamais touché l'eau. Et à chaque fois, il était observé par de nombreuses personnes. Donc, dans un premier temps, il y a un navire de la US Navy, le capitaine Beckman, qui va venir témoigner à l'enquête en disant, lorsque le L-8, lorsque vers à peu près 7h45, le L-8 a fait savoir qu'il avait vu une tache d'huile. Nous étions dans les parages et on l'a observé. Donc, on a vu le L-8 descendre, s'approcher de cette fameuse tache d'huile. Il a tourné autour, mais il n'est jamais entré en contact avec la tache d'huile et le ballon a remonté dans le ciel sans problème. Un peu plus tard, D'autres personnes sur un bateau vont dire on a vu le L-8 un peu plus tardivement. En fait, c'était l'équipage d'un navire de la garde de côte qui s'appelait le Albert Gallatin. Et ces gens-là disent on a vu le L-8. Il s'est dirigé vers la surface de l'eau. Il a perdu de l'altitude. Et à un moment donné, il s'est mis à tourner en rond comme pour indiquer qu'il y avait la présence de quelque chose de suspect. Il a même laissé tomber une bombe fumigène. Et là, nous, les membres du Albert Gallatin, on s'est rendu sur place, mais bon, il n'y avait rien de mystérieux, rien de suspect là-dedans. Et entre-temps, ben, on a vu le L-8 reprendre de l'altitude et s'éloigner. Et c'est tout. Donc, qu'est-il arrivé? L'hypothèse proposée par la US Navy, qui n'est pas folle. L'équipage, la US Navy dit, ben, l'équipage, on sait qu'un des membres de l'équipage n'était pas habitué à voler sur des ballons rigides. Et c'est très facile de perdre l'équilibre sur un ballon comme celui-là. Hein? Ça se joue là, littéralement à quelques kilos pour le faire pencher à gauche ou à droite. Donc, l'hypothèse que soumet la US Navy, et c'est une hypothèse, hein? Et elle rencontre de très nombreux obstacles. Mais l'hypothèse, c'est de dire, lorsque le L-8 a laissé tomber cette bombe fumigène, essayons de nous imaginer ce qui peut se passer dans la gondole. DeWitt Cody est aux commandes, son collègue Ellis Adam décide de laisser tomber la bombe fumigène, et si les gens vont sur mon site public, j'ai une photo de moi dans la gondole du L-8, parce qu'on a conservé la gondole, donc je sais comment c'était fait à l'intérieur, on avait comme une espèce de rail qui sortait à l'extérieur de la gondole et on poussait un peu comme un convoyeur, on poussait la bombe sur ce rail jusqu'à temps qu'elle soit sortie de la gondole et quand elle arrivait au bout du rail, il n'y avait pas de, entre guillemets, de stopper. Donc la bombe, une fois arrivée au bout du rail, elle tombait à la mer.
Okay.
Donc la US Navy dit, imaginons la situation suivante. Les gens, l'équipage observe quelque chose de suspect à la surface de l'eau. S'approche avec le ballon, le L-8, et là, il décide de laisser tomber cette fameuse bombe fumigène qui pèse quand même quelques kilos. Au moment où la bombe tombe à la mer, le ballon se trouve pendant un court moment déstabilisé. Hein? Il va avoir une espèce de mouvement de recul. Imaginons à ce moment-là que lorsque le mouvement de recul se produit, l'enseigne Ellis Adam, qui se trouve tout près de la porte, est déstabilisé et perd pied. Et là, il est accroché sur le bord de la porte, il a un pied dans le vide. Que va faire son collègue? Bien évidemment, il va lâcher les commandes pendant quelques secondes pour venir en aide à son compagnon. Et les deux hommes, entrelacés, en essayant de s'aider et de se sauver mutuellement, seraient passés par-dessus bord, seraient tombés à la mer. Le ballon, délesté du poids de l'équipage, serait monté, se serait déplacé dans les environs de San Francisco pendant un temps, en prenant toujours un peu plus d'altitude. Et puis, à un moment donné, lorsqu'il a atteint son altitude maximale, l'une des valves de sécurité aurait sauté et entraînant le dégonflement du ballon jusqu'à temps qu'il tombe à Daly City.
C'est une belle hypothèse.
L'hypothèse nous semble vraisemblable. Mais le point majeur, c'est lorsqu'il y a eu cet incident où on a laissé tomber une bombe fumigène, il ne faut pas oublier que le ballon était observé par tout l'équipage d'un navire qui se trouvait à quelques centaines de mètres, qui étaient les membres d'équipage sur Albert Gallatin. Comment ces gens-là n'auraient-ils pas vu les deux passagers passer par-dessus bord alors qu'ils sont tous là, les yeux rivés à leurs jumelles, à regarder le L8, à regarder la surface de la mer, à regarder la bombe fumigène? On comprend bien que si les deux hommes seraient passés par-dessus bord, le ballon aurait fait un très important mouvement de tangage, laissant croire qu'il y avait quelque chose d'anormal. Il est peu vraisemblable que les gens de la Bird Gallatin n'aient pas vu les deux hommes tomber à la mer. Quoi qu'il en soit, on ne trouvera jamais une explication officielle. L'hypothèse est proposée sans être confirmée. On ne retrouvera jamais aucun corps, aucun débris, aucun élément permettant d'appuyer quelque hypothèse que ce soit, ni bien sûr de réfuter celle qui est proposée par les membres de la US Navy. Quelques années après, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce sera d'ailleurs de toute cette armada de ballons dirigeables, c'est le seul incident qu'on aura à déplorer, hein, où il y aurait eu décès d'hommes, c'est la seule fois où ça va se produire. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les autorités du département de la Défense vont reconnaître, sans savoir comment, sans pouvoir l'expliquer, vont reconnaître le décès de Ernest Dewis Cody et de son collègue Ellis Adam, et vont donner aux ayants droit ce qu'ils méritent en fonction du décès ou de la disparition de leurs proches. Mais on n'aura jamais une explication officielle, si ce n'est cette hypothèse très vraisemblable. On peut quand même le dire, c'est une hypothèse qui est très vraisemblable. Oui. Elle correspond à des éléments qu'on peut observer. Bon, la chute de la bombe, le mouvement, le soudainement inattendu du ballon qui aurait pu entraîner une perte d'équilibre des passagers, bien sûr. Mais comment expliquer que les gens qui observaient le ballon à ce moment-là n'aient rien vu de cet incident alors qu'il se trouvait à quelques centaines de mètres? C'était une belle journée, une belle matinée d'été de 1942, et le ballon L8 est resté dans les mémoires comme l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation militaire américaine de cette période-là.
Et dans quelques jours, on souligne le 80e anniversaire de cet accident-là.
Oui, c'est pour ça que je l'avais choisi. J'ai dit, bon, on va prendre une histoire, mais c'est vrai que dans le 16 août prochain, ça va faire exactement 80 ans que s'est produit l'incident de la disparition de l'équipage du L8.
Les gens peuvent me trouver de mauvaise foi, Christian, mais on dirait que la deuxième hypothèse, en plus qu'on est en plein dans la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que les deux membres de l'équipage ne seraient-ils pas des déserteurs? J'ai pensé à ça. Moi, je me suis dit, d'après moi, ils ont peut-être prévu quitter l'armée, ont pris des parachutes et en même temps que la bombe fumigène, ont décidé de se sauver dans la nature. C'était facile de disparaître dans ces années-là. Là.
Oui, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait une motivation. Ces gens-là, ce sont des militaires. Ils sont pas en situation de menace. On pourrait comprendre éventuellement un déserteur sur un champ de bataille. Hein. Il veut sauver sa vie, ce qui n'est pas le cas ici. Hein. Ces gens-là font partie d'un escadron de surveillance. Leur vie n'est pas menacée au quotidien. Ces gens-là ont de la famille, ils sont mariés, ils ont des enfants. Donc, il y a pas de motivation, il y a pas une somme d'argent attachée à ça non plus. Ils ont pas livré un secret militaire particulier. Ils sont simplement disparus. Et s'ils ont déserté, ils ont rejoint qui? les forces du Troisième Reich, les Japonais, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? ils ont rejoint le Reich et sont allés enterrer un trésor quelque part en Pologne.
Tout est dans tout.
Tu comprends? Tout est... Mais en fait, on n'arrive pas à trouver une motivation pour que ces gens-là puissent déserter. L'hypothèse la plus vraisemblable, moi qui suis allé sur place, qui a rencontré des gens, j'ai même rencontré des pilotes qui ont fait partie de cette fameuse escadrille des dirigeables, des vieux militaires qui me racontaient comment ça se passait. Et j'ai eu, tu comprends, le plaisir de me photographier aux côtés de la nacelle, le L8. Et là, tu sais, on m'amène là, et la nacelle est conservée aujourd'hui au musée de l'air de Pensacola, en Floride.
Okay.
Donc, avec une autorisation spéciale, je suis arrivé là, je suis rentré dans la nacelle, je me suis photographié sous tous les angles, je me tenais derrière les commandes, je me disais, Cody se tenait ici quand l'incident, appelons-le comme ça, quand l'incident est survenu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout à fait extraordinaire. Donc, le L8, on a conservé la gondole, le ballon lui-même, l'enveloppe, comme je l'ai mentionné. Bon, d'abord, le L8 a été remis en état. Il a continué à faire son service jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Ensuite, on a récupéré la gondole. C'est une des rares gondoles qu'on a conservées de cette équipée-là. Et bien sûr, parce qu'il y avait une histoire de rattacher à l'événement lui-même, hein, la gondole. On voit peinte en noir dessus L8, non, qui nous rappelle cet événement-là. Et l'enveloppe elle-même, éventuellement, a été récupérée par la compagnie de pneus Goodyear, qui l'ont réutilisée, l'ont adaptée à une autre gondole et l'ont utilisée pendant des années comme un ballon dirigeable pour surveiller, faire de la surveillance du ciel ou de l'observation à partir du ciel, principalement dans des activités de sport internationaux.
Mystère.
Ouais, non, c'est ça. Donc, on a des bons mystères, des disparitions comme celle-là. T'sais, on est toujours en train de parler du triangle des Bermudes, mais c'est vrai qu'il y a des disparitions qui sont un peu énigmatiques. Et ça, l'affaire du L8, c'est un truc qui m'avait beaucoup intéressé. Puis c'est amusant parce que pendant que je te parle, j'ai sous les yeux, à 2 mètres de moi, une reproduction parce que j'ai comme un curieux à la maison, parce que les gens doivent savoir que je suis pas en studio avec toi.
Ben
moi,
oui,
J'ai mon studio chez moi, je te parle par la magie des ondes, dou. Mais dans un curieux, juste devant moi, j'ai une reproduction magnifique du L8 qui me rappelle tout le plaisir que j'ai eu à enquêter là-dessus. Puis il faut pas se le cacher, enquêter sur quelque chose dans la baie de San Francisco, en Californie, c'est quand même pas banal. C'est un endroit qui est extraordinaire pour les gens qui nous écoutent, qui ont déjà visité la grande région de San Francisco. Il y a quelque chose de très particulier dans San Francisco. Hein? Je me rappelle plus, mais un auteur du 20e siècle avait dit, en fait, aux États-Unis, il y a 3 villes. New York, la Nouvelle-Orléans et San Francisco. Donc, tout le reste, c'est du pareil au même, mais ces 3 villes-là ont un cachet particulier. Et c'est vrai que j'aime beaucoup San Francisco. Et les prises de vue sont tout à fait fantastiques. Hein. Moi, quand j'étais à la base de Moffett Field, qui n'existe plus aujourd'hui, l'île de Treasure Island est toujours là. Il y a un panneau qui nous indique l'endroit où se trouvait la base de Moffett Field. Et si on est un peu le moindrement observateur, quand on regarde, parce que c'est un grand, grand terrain, mais quand on est observateur et qu'on regarde comme faut le sol, on peut voir encore les démarcations qui ont été laissées par les grands hangars. C'était des hangars énormes. Des hangars qui faisaient de 50 mètres de large sur 200 mètres de long. C'est énorme. Et dans lesquels on plaçait chacun des dirigeables. Et on avait un escadron de 12 dirigeables. Donc, c'était énorme. Et on voit sur le sol les marques laissées par ces hangars où jadis étaient les fameux ballons de l'escadrille.
C'est un beau privilège de pouvoir voyager, mais aussi, tu as eu l'occasion d'y toucher à ce mythique L8. Christian, ça fait le tour déjà pour l'émission de ce soir. On a des super de bons commentaires. On va mettre... On a des petits problèmes. On a lancé un nouveau site Internet, là, je vais le dire, parce que je reçois plein de messages dans les derniers jours. Ce soir, je vais m'organiser pour mettre moi-même les intégrales des émissions depuis lundi. Donc, pour réécouter ce soir, ça va être disponible sur le site de RadioX.com. Et Christian, je te souhaite une excellente fin de soirée.
Ouais. De mon côté, si j'ai une chance, là, je vais essayer de mettre sur le site de Radio X-Fan, je vais essayer de mettre la photo, une des photos que j'ai de la gondole moi au côté. Donc, les gens, ça va lui donner une idée à quoi ça devait ressembler.
Super.
Donc, on pourra faire ça. Puis, on se reparle demain avec un sujet, cette fois, sur les crimes mystérieux, sataniques et l'occultisme.
Yes! Bonne soirée à toi demain.
Bonne soirée à tout le monde. Ciao.